Donc, pour ceux que je n'avais pas vu tout à l'heure, bonjour. Merci à Damien de nous avoir conduits dans ces chants. Oui, Dieu est fidèle, Dieu nous aime et nous avons besoin de son amour chaque jour, tous, autant que nous sommes, car tout le monde a besoin d'amour. Reprions ensemble. Seigneur, oui, je me place devant toi, Seigneur, pour que tu guides ce message. Seigneur, que tu continues de nous inspirer, de nous conduire par ta parole, Seigneur, car ta parole est la vérité. Et nous voulons vraiment la recevoir telle qu'elle est, telle qu'elle a été donnée, Seigneur Jésus. Amen. Alors, il y avait une phrase que j'avais voulu vous laisser et que j'ai mis donc en titre de ce message. Il ne vous manque aucun don. Cette phrase se trouve dans l'Épître aux Corinthiens et je vais lire simplement déjà dans l'épître, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 4 à 9. « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Bien qu'adressée donc aux Corinthiens, cette lettre concerne toute la chrétienté, puisque Paul dit plus haut au verset 2 « Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Donc cette parole s'adresse à nous et il convient donc d'y réfléchir et d'en tirer des leçons. C'est ce que nous voulons faire. Au verset 4, la grâce de Dieu vous a été accordée en Jésus-Christ. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Aucune personne sur terre, aucun chef des nombreuses religions du monde ne peut nous accorder la grâce du Dieu Tout-Puissant. Ni Krishna, ni Bouddha, ni Mahomet, ni Confucius, ni Dalai Lama, etc., etc. C'est pas la peine, bien sûr, de tous les citer. S'il n'y avait qu'une petite possibilité que la grâce de Dieu puisse nous parvenir par eux, Dieu, le Créateur Tout-Puissant, n'aurait pas eu besoin de sacrifier son Fils bien-aimé sur le mont Golgotha. Et si vous hésitez sur cette vérité, c'est que vous n'êtes pas encore chrétien. Car tout chrétien, dois rappeler avec force, à la suite de l'apôtre Pierre, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Au verset 5, nous avons lu « En lui, en Jésus-Christ, nous sommes comblés de richesses. » Mais bien sûr, pas matérielles et financières. Ces richesses concernent la parole et la connaissance. La parole, c'est bien sûr la parole de Dieu, l'Écriture, qui nous est décrite dans le psaume 119, dont je ne vous lis que quelques versets. Verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Verset 140, « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » Verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Et Jésus, en Jean 17, verset 17, demande à Dieu « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Oui, nous sommes comblés de richesse par cette parole. La parole, bien sûr, c'est aussi la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus lui-même. En Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et au verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Je vous avais déjà lu ce verset lors de mon dernier message. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous sommes comblés de richesses spirituelles dans la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Écriture, et par la parole vivante qui est Jésus-Christ. Et concernant la connaissance, nous comprenons aussi que, en dehors de Jésus, la connaissance du bien et du mal mène à la mort. C'est le sens du passage de la Genèse au chapitre 2, verset 17. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Non pas que Dieu voulait nous empêcher de connaître, mais il voulait nous donner la connaissance qui conduit à la vie. En Jésus, nous avons la connaissance qui conduit à la vie. Paul, aux Colossiens, au chapitre 2, versets 1 à 3, nous dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » C'est à cette connaissance que Dieu voulait nous amener, à Jésus-Christ, qui nous donne la vie. En Jésus, nous avons la connaissance de l'amour de Dieu, du salut qui nous donne la vie éternelle. Chaque jour, comme l'a dit tout à l'heure Damien, chaque jour nous sommes informés de toutes les guerres, les crimes, les atrocités, les escroqueries, les vols, etc. Tout cela nous montre la noirceur du monde et des hommes. Cela est désespérant. L'amour disparaît. La méfiance s'installe. Jésus nous avait prévenu en Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais quand nous connaissons la grâce qui nous est faite par le sacrifice du Seigneur sur la croix, l'espoir renaît, la vie reprend, on entrevoit une issue pour l'homme, pour l'humanité, dans le retour vers le Seigneur. Oui. Au verset 6, il nous est dit « Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. » Le point fort pour cette église de Corinthe, c'est que le fondement a été bien posé au départ. 1 Corinthiens 3, 11 « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Ce témoignage de Christ a été solidement établi. Et aux Éphésiens, Paul dit, au chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Les apôtres ont témoigné de la vie du Christ. Ils ont écrit les évangiles. Ils nous ont expliqué le sens de ce qu'il a fait à la croix et les conséquences pour nous de son œuvre. Toutes leurs lettres, les épîtres, nous ont été transmises. Ils nous ont ouvert les yeux sur l'avenir et la manifestation glorieuse de Jésus. Tout ce qui est nécessaire et important de comprendre a été expliqué par les apôtres. Il n'y a rien à ajouter. Tout a été donné. Galates 1, 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire rejeté. Au verset 7, donc, il nous est dit cette phrase que j'ai pris comme titre, « Il ne vous manque aucun don ». Et toujours Paul, aux Colossiens cette fois-ci, au chapitre 2, verset 9 à 10, dit « Car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Jésus est la source de la connaissance, de la sagesse, de la joie, de la paix, du pardon, de la miséricorde, de l'amour, de l'espérance. Et comme l'apôtre dit, dans l'attente où nous sommes de la manifestation de Christ, il ne nous manque rien. Tout a été donné dès le début, jusqu'au retour de Christ. Pas de nouvelles révélations au cours des siècles et dans la fin des temps. Tout a été donné pour que chaque génération puisse vivre de Christ et dans l'attente de son retour. Vous pouvez enlever toutes les révélations ou tous les dogmes qui ont été rajoutés au cours des siècles. Ils n'ont rien à voir avec la révélation qui a été donnée au début. Tout a été donné pour tous les chrétiens de tous les siècles jusqu'au retour du Seigneur, dans l'attente où vous êtes de son retour. Et si aujourd'hui, sur Internet ou à vos portes, quelqu'un vient vous dire « j'ai eu une nouvelle révélation pour la fin des temps, etc. », vous pouvez tout de suite fermer la fenêtre, fermer la porte, couper. Aucune nouvelle révélation n'aura lieu jusqu'au retour du Seigneur. Tout a été donné dès le départ pour toutes les générations de chrétiens jusqu'au retour de Christ. Aux Philippiens, Paul dit, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » C'est notre attente, c'est notre vision, notre but, le retour de Christ. Versets 8 et 9, il nous est dit, c'est lui qui nous affermira, qui vous affermira ou qui nous affermira, si on le prend pour chacun personnellement. Paul affirme sa foi dans la fidélité de Dieu. Et il dira aussi aux Philippiens, au chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 24, « Celui que vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Aucune crainte donc à avoir. Dieu achève toujours ce qu'il commence. Nous l'avons dit au début, tout ce qui est dit aux Corinthiens s'adresse aussi à nous, chrétiens des derniers siècles. Nous avons toute la révélation, tous les dons de Dieu sont à notre disposition, à la disposition de son Église. Mais bien souvent, nous sommes comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, le fils aîné qui reproche à son père de ne lui avoir rien donné. Et le père lui répond, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Tout ce que le père a est à nous. Nous sommes ses enfants. Si nous ne demandons rien, nous n'obtiendrons rien. Dieu ne demande qu'à nous combler de ses richesses. En Jean 16, Jésus nous dit, « en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Et il nous dit aussi en Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Il nous faut donc demander au Père, en faisant attention au but poursuivi. Parce que l'apôtre Jacques dit au chapitre 4, verset 3 de sa lettre, Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc voilà, comment demandons-nous à Dieu, pour quel but, dans quel objectif demandons-nous les choses à Dieu? Les dons spirituels dont l'apôtre parlera donc au chapitre 12 de cet épître, ne sont pas donnés pour notre satisfaction personnelle. Le salut nous est acquis par l'œuvre de Jésus. Nous avons le salut qui est acquis par son œuvre. Mais les dons sont donnés pour que l'Église puisse être édifiée, construite, unie. Et donc au chapitre 14 de cet épître aux Corinthiens, au verset 12, « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Il est donc clair que ce que l'apôtre Paul appelle les dons spirituels ne sont pas des dons à usage personnel, pour satisfaire notre ego, nos ambitions, ou nos désirs de supériorité. Ils sont là pour édifier nos frères et sœurs, les affermir dans la foi, les aider dans leur marche au travers des difficultés qui ne manquent pas dans la vie de tous les jours. Dans cette église de Corinthe, on le voit dans la suite du passage que je vous ai lu en début, dans cette église de Corinthe, il y avait des difficultés, comme dans pratiquement toutes les autres. C'est ce qui arrive quand des personnes très différentes les unes des autres sont réunies. Et c'était justement l'œuvre de Jésus et de son esprit de nous réunir. L'apôtre Jean nous le dit à propos d'une prophétie de Caïphe dans l'évangile de Jean au chapitre 11. C'est Caïphe qui avait dit « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. » Mais étant souverain sacrificateur satané là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et Jean rajoute, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Maintenant, lisons ensemble un peu ce que Paul dit des dons spirituels, donc au chapitre 12. Nous allons lire le verset 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Si vous reconnaissez dans votre cœur, si vous le dites « Jésus est le Seigneur », c'est le Saint-Esprit qui vous l'inspire. C'est le Saint-Esprit qui vous permet de le dire. C'est par le Saint-Esprit. Il y a la diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. L'apôtre est clair, beaucoup plus que je ne pourrais l'être. Je ferai simplement 5 remarques. Premièrement, c'est l'esprit qui est aux commandes. Deuxièmement, on ne peut faire ou vouloir s'attribuer ce que l'on n'a pas reçu. Troisièmement, on peut aspirer à un don, mais c'est l'esprit qui distribue comme il veut. Quatrièmement, les dons sont répartis. Cinquièmement, il n'y a personne qui détient tous les dons. Il n'y a que Dieu seul et Jésus-Christ qui a tout pouvoir, toute puissance, tout. Il n'y a que Dieu seul. Donc, un homme ne peut pas avoir tous les dons. Il reçoit les dons que le Seigneur lui donne. C'est tout. Cette lettre est très riche. L'apôtre nous décrit ensuite l'Église comme un corps où chaque membre, même celui qui semble le plus insignifiant, est important pour le bon fonctionnement. Le plus important est d'être à la place où Dieu nous a mis. Alors bien sûr, ce n'est pas le moment dans ce message de parler de chaque don. Ça prend du temps. Car finalement, l'importance de tous ces dons est relativisée par l'impératif principal qui est celui de l'amour. Et c'est toujours dans cette lettre que l'apôtre nous écrit une de ses plus belles pages, au chapitre 13, 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Bien, frères et sœurs, qu'il en soit ainsi dans nos vies et dans notre Église. Amen.